Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Évidemment, Tech & Co, le débrief de l'actu tech, pendant que je m'assois et que personne ne le voit, enfin oui, peut-être un peu quand même, sauf à la radio. Julien Villeret est avec nous, salut Julien.
Bonsoir.
Merci d'être là, directeur de l'innovation chez EDF, bien sûr. Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business.
Bonsoir à
voilà,
tous et tous.
Fidèle camarade tous les soirs. Et nous avions un nouveau débriefeur hier. Nous avons encore un nouveau débriefeur. On est en pleine phase de recrutement.
Oui.
Là, c'est incroyable.
C'est le mercato.
C'est le mercato des débriefeurs, dis donc. Et c'est Gaël Duval qu'on accueille pour la première fois. Donc,
bonsoir,
sur le plateau
François.
De Tech & Co. Gaël, ravi de t'accueillir.
Merci.
Entrepreneur, business angel et fondateur de jechange.fr. Raconte-nous un petit peu, présente-toi à toute l'audience de Tech & Co.
Moi, je suis entrepreneur dans le digital depuis un moment déjà, puisque ça fait depuis 1995 et j'en suis à ma quatrième société. La dernière ayant été Jechange, qui était dans le secteur de l'énergie, puisqu'on aidait les gens à changer d'opérateur de télécom, société que j'ai cédée il y a un an maintenant. Et aujourd'hui, je suis très impliqué dans l'IA en particulier, et sur particulièrement le développement d'un écosystème avec des levées de fonds qu'on va annoncer sur des sociétés. Et je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. Voilà.
Eh bien voilà, on va pouvoir profiter de ton expertise dans la tech, dans ce débrief. Avec comme sujet ce soir, donc je le disais, Apple qui s'est empêtré dans une histoire incroyable qui a été mise en lumière par Bloomberg, je crois. Voilà, Apple recyclerait des téléphones, ça on le sait, bien évidemment, mais il y aurait aussi, une phase un petit peu plus sombre où des téléphones seraient tout simplement broyés alors qu'ils seraient encore opérationnels. Et franchement, ça c'est incompréhensible de la part d'une boîte qui, depuis des années, ne cesse de répéter qu'elle est irréprochable en matière d'environnement. C'est pas tout à fait le cas. On va en parler dans quelques instants. On parlera aussi d'Apple avec, ces recrutements un peu fantômes, puisqu'Apple sera en train d'embaucher des anciens de Google pour travailler sur l'IA. Ça veut dire que finalement, ils sont en train quand même de bosser là-dessus. Et espérons que durant la WWDC du 10 juin prochain, on ait quelques informations IA à se mettre sous la dent. On parlera aussi d'intelligence artificielle, bien évidemment, avec Vaidu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce système qui génère des vidéos un peu comme Sora, mais c'est chinois, il paraît que c'est impressionnant. Anthony Morel nous en a parlé dans Good Morning Business. On reviendra sur cette affaire. Et puis voilà, plein d'autres sujets passionnant, bien sûr, le boom des véhicules électriques chinois. C'est un sujet que tu voulais mettre en avant, Julien. Tout ça d'ici 21h. Mais pour débuter, on va parler de reprendre le contrôle des écrans. C'est l'ambition, vous le savez, d'Emmanuel Macron. Le groupe d'experts mandaté par le président de la République a rendu ses conclusions aujourd'hui, donc forcément il fallait qu'on en parle. Il préconise d'acter des recommandations précises en fonction des âges. Les explications tout de suite de François Célière, qui est journaliste à BFM TV. Et puis bien sûr, on vient commenter tout ça juste après.
Le rapport préconise tout d'abord d'acter des recommandations précises en fonction des âges. En dessous de 3 ans, pas d'écran. De 3 à 6 ans, un usage déconseillé ou limité. Et à partir de 6 ans, une exposition modérée. De même pour le téléphone portable, pas d'achat en dessous de l'âge de 11 ans. À partir de 11 ans, un accès au téléphone sans internet. Puis internet sans les réseaux sociaux à partir de 13 ans. Et accès à 15 ans à des réseaux sociaux, je cite, éthique. La deuxième mesure est de mettre un terme aux éléments, je cite, délétères des réseaux sociaux. Le rapport cible le fil de déroulement infini des contenus et le lancement automatique et sans fin des vidéos et des notifications. Troisième mesure, le contrôle parental ne serait plus laissé à la guise de chaque plateforme ou opérateur. Le rapport préconise une seule interface de contrôle parental. Quatrième mesure, la création de zones zéro connexion dans les entreprises, les bars-restaurants et l'espace public. Mais le rapport propose aussi des mesures plus surprenantes, comme une réorganisation des horaires dans l'éducation nationale. Il recommande de repousser par exemple à 10 heures l'horaire du début des cours au collège et au lycée. Sur les jeux vidéo, ce rapport préconise l'interdiction de la vente en fonction des âges, comme c'est le cas actuellement au Royaume-Uni. Enfin, sur la pornographie, le rapport mise sur un projet de loi européen, le Digital Service Act, qui doit sécuriser l'accès au contenu.
Alors, beaucoup de choses dans ce rapport. On ne va pas tout commenter parce qu'il nous faudrait, je pense, 2 ou 3 Tech & Co. Peut-être revenir sur les mesures phares qui sont les plus, les plus spectaculaires. C'est le fait que, on donne un accès progressif aux jeunes, pour répéter, donc moins de 3 ans, pas d'écran, interdiction, moins de 3 ans. Bon, ça me paraît normal, logique, on va dire. De 3 à 6, usage des écrans déconseillés ou fortement limités, occasionnels, voilà, avec des contenus éducatifs. On peut imaginer un iPad avec des contenus éducatifs, des choses comme ça. De 3 à 6, après 6 ans, appelé à une exposition modérée, contrôlée. Avant 11 ans, pas de téléphone. Mais pas du tout, même un téléphone, un vieux Nokia 3210, voilà, pas de téléphone. À partir de 11 ans, un téléphone, mais sans connexion Internet, donc là, c'est le 3210, c'est ça, hein, finalement. À partir de 13 ans, un téléphone connecté sans accès aux réseaux sociaux. Donc bonjour les parents, parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils bloquent les installations des applis, etc., etc. Et à 13 ans, on commence à être un peu malin, hein, quand même. Hein. Quand on veut quelque chose, en général, on arrive à l'avoir. Et à partir de 15 ans, téléphone connecté aux seuls réseaux sociaux éthiques. C'est quoi les téléphones, les réseaux sociaux éthiques, Fred ?
Les réseaux sociaux éthiques, c'est des réseaux qui n'entraînent pas de réengagement un peu éternel, un peu comme nos réseaux. Là, on n'arrête pas de zapper, enfin de passer.
Donc TikTok n'est pas un réseau social éthique ?
Non.
Instagram non
c'est,
plus.
C'est des réseaux qui n'ont pas de contenu traumatisant, évidemment, des contenus offensants. C'est des réseaux aussi qui ne font pas d'atteinte à la vie privée, à la confidentialité des données. C'est des réseaux aussi où on est.
C'est Minitel, quoi.
Où on peut être un peu plus certain de l'âge des internautes.
Enfin, voilà.
C'est tout ce qu'on peut imaginer comme éthique autour d'un contenu et d'un usage, donc voilà à quoi ça ressemble. J'en connais pas beaucoup.
On pourrait même pas en citer un.
Ouais, non.
Bah, Facebook, moi, je disais, même moi, pas Facebook.
Mais non, tout ce qui vend de la pub,
Facebook, ça,
tout ce
qui
Twitter,
vend de la pub,
non, parce
ça
que
marche
sur Twitter, il y a du contenu.
Je me disais peut-être, mais Threads, mais on l'a pas testé.
Non, mais Mastodon, éventuellement.
Gentil, ouais.
Tout ce qui vend de la pub ne fonctionne pas comme éthique. Tout ce qui vend de la data ne fonctionne pas comme éthique. Et tout ce qui vend de l'addiction ne fonctionne pas comme éthique. Donc le réseau social étant un produit d'addiction, ça peut pas marcher en tant que tel.
Oui, parce que même les choses éducatives, c'est pour t'amener vers autre chose. Si on te propose la bibliothèque rose, c'est pour aller que tu dises la verte plus tard et puis que tu changes. Enfin, voilà, c'est toujours un truc pour t'entraîner vers un nouveau palier.
Alors, ce rapport est intéressant. Je pense qu'il était nécessaire. Est-ce qu'il va trop loin ? Est-ce qu'il va pas assez loin ? Est-ce que c'est plutôt des bonnes idées qui ont été présentées ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Moi, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de donner des repères aux parents. Et d'abord, c'est pas nouveau. Enfin, moi, mon fils est né à 15 ans. Déjà, il y a 15 ans, on m'expliquait que pas d'écran avant 3 ans. Faites attention. Quand je travaillais dans les télécoms, il y a maintenant 20 ans, on disait le pauvre portable, c'est au collège. Donc, 11 ans. Donc, je veux dire, ces recommandations-là, qui sont de bon sens et qui, a priori, s'appuient en plus sur des faits scientifiques avérés, me paraissent complètement raisonnables. Mais c'est pas d'une grande nouveauté. Mais en tout cas, donner des repères aux parents, je trouve ça très, très bien. Après, là, j'avoue que mon sentiment et l'énumération que tu viens de faire est quand même assez frappante. On rentre toujours dans cette espèce de suradministration des choses. Tout d'un coup, alors il n'y a pas d'Internet avant 11 ans, mais il y a du réseau social éthique à partir de 15 ans. Mais en fait, il y a le contrôle parental Franchement, qui va s'en sortir avec ça ? Ça, c'est absolument impossible. Donc, je pense que c'est très intéressant de donner des repères et de dire aux parents, y compris ceux qui ne maîtrisent pas ces outils-là, vraiment... Oui. Ne faites pas ces bêtises, ces grosses bêtises de donner des tablettes trop tôt.
C'est un peu le mode d'emploi de la collection.
Voilà. Mais tu vois, le 3 ans, 11 ans, 15 ans, au moins là, tu sais, tu vas
voilà.
le
3
ans,
assez, rien. Celui-là est
11
assez
ans,
raisonnable.
Modéré et 15 ans, là.
Mais ce qui est important, effectivement, c'est de donner un des repères aux parents, deux, d'essayer d'éviter quand même que l'addiction tombe entre les mains des enfants très tôt. Après, bonne chance pour le mettre en œuvre dans une famille avec plusieurs enfants, où vous allez vous retrouver sur le canapé avec un enfant de 3 ans, de 5 ans et de 11 ans, sur lequel les parents vont pouvoir se dire il faut... mais comment je fais moi, pour en avoir 3, je vis cet enfer-là tous les jours.
Non, mais c'est clair.
Ce qui est quand même
il faut
très
en mettre
bien
dans la cuisine.
C'est ça, on en met un dans la chambre,
toilettes,
dans le
un
salon,
dans la salle de bain, et comme ça, ils peuvent pas communiquer
mettre en œuvre. Mais au-delà de la blague, ce qui est vrai, c'est que, bon, déjà, comme le dit Julien, on le sait depuis longtemps, même Steve Jobs, en tant que premier vendeur de drogue, refusait les iPads sont entre les mains de ses enfants. Donc lui-même savait le risque d'addiction, ce qu'il y a. Ce qui est quand même super important. Et c'était il y a 15 ans. Et ce qui est super important néanmoins, c'est pas l'écran en fait le sujet. C'est ce qu'il y a dans l'écran. C'est les réseaux sociaux. C'est les problèmes de maîtrise de temps passé. C'est les problèmes de concentration. Et je pense que ce qui est important dans le rapport, c'est que ça donne quand même des repères d'âge. On essaye de donner des paliers en disant il ne faut pas qu'à certains paliers vous puissiez laisser la main. Moi, ce que je vois, je vois des enfants de 5 ans, 6 ans déjà sur TikTok. Enfin, c'est un enfer. Et qui sont totalement abrutis par le pouce qui monte et qui descend à regarder des choses totalement absurdes. Donc le rapport, il est important pour ça. Après,
sans parler de l'impact que ça a sur le cerveau enfant.
C'est sur la concentration. Et même le rapport le dit d'ailleurs. Même le rapport se reconnaît comme effrayé par l'impact que ça a. Donc je pense qu'en termes de mettre des métriques, c'est super important sur des contrôles. Après, le vrai sujet, c'est de responsabiliser responsabiliser les parents et de responsabiliser les parents sur le fait de ne pas laisser entre les mains des enfants trop longtemps des objets qui sont extrêmement néfastes pour leur développement personnel et pour d'accès à des informations qui sont pas. Et après, il y a un sujet sur la pornographie qui est effectivement encore plus grave, puisque les études sont dramatiques sur l'âge d'accès à la pornographie, où là, enfin, moi, j'avais préconisé il y a très longtemps, de à l'époque où j'étais dans le Conseil national numérique, d'essayer de faire en sorte que ce soit les opérateurs qui, sur les abonnements des mineurs, coupent complètement l'accès à ce genre de choses. Il s'avère que la loi européenne ne le permet pas et ne l'autorise pas, d'où le fait d'en faire une et d'en développer une. Mais c'est aussi là l'un des enjeux majeurs de ce rapport sur ce sujet là qui est catastrophique.
Alors il y aurait on va dire un renforcement de toutes ces informations dès l'école élémentaire, mais bon, ça me paraît tellement évident.
C'est exactement.
Ça paraît tellement évident que, je sais pas moi, une heure par mois, on explique en fait aux enfants que, il faut utiliser les écrans le moins possible ou à des moments bien spécifiques de la journée, les impacts que ça peut avoir après sur la société, etc., etc.
En tout cas, c'est plutôt, je trouve, donc une bonne nouvelle, mais voilà, attention de ne pas tomber dans la suradministration et commencer à expliquer aux gens à partir de quelle heure, de quel jour et de quel mois ils doivent mettre tel contrôle parental, etc. Parce que il faut aussi responsabiliser effectivement un peu les gens, mais en tout cas donner des repères, ça paraît de santé publique.
Mais donner des repères aux parents, ne serait-ce que dans les histoires de contrôle parental, d'heures d'usage, de dire voilà, de 7h30 à 17h30, voilà, il a accès à des contenus. Après, ça bloque ce genre de choses. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que là-dessus, l'éducation bouge beaucoup. Hein, aujourd'hui, si on a des enfants ados, les devoirs, c'est faut aller voir YouTube, faut aller...
C'est pire que ça, faut aller sur École Directe pour leur direct, laisser l'accès à savoir ce qu'ils vont faire pour les devoirs.
Le texte.
Donc il y a un sujet qui est aussi de... il faut que l'école soit évidemment extrêmement tech-friendly et ouvert à l'accès à l'information et à l'écran, mais il faut aussi permettre de faire en sorte qu'on se retrouve pas à être obligé de donner des écrans aux enfants pour qu'ils aillent faire leurs devoirs à un moment donné. Donc c'est...
Puis moi je pense que ça peut même être lié à des inégalités, parce que tu as ceux qui vont faire évidemment très attention à ça et qui vont trouver des alternatives éducatives de qualité parce que c'est un certain milieu, parce que etc. Et puis d'autres qui vont on va leur supprimer, et puis voilà, ils n'ont pas accès à une certaine culture. Alors effectivement, pas accès au porno, ça c'est clair, mais ils n'auront pas accès à d'autres choses, et là ça peut créer aussi des inégalités. Donc je pense qu'il faut voir ça comme des repères. Tout ce que l'on peut mettre en place déjà, c'est ce que je le disais hier, mais de base, quand tu parlais de pornographie, ben voilà, si on pouvait déjà mettre le contrôle d'identité, après on dit ça marche pas terrible, oui, mais si on a déjà ça et qu'on limite 60% des gens, c'est déjà ça. Alors après, ils apprendront comment contourner, mais ce sera un peu plus compliqué. Enfin voilà, mais là ça paraît contraignant. Puis rappelons-nous la Chine, hein, qui alors elle c'est et finalement quelque part ils étaient sur la bonne voie, parce que là c'est très directif. Et puis là je pense que si on commence à rentrer aussi dans l'ingérence des familles, les parents ils votent, hein, donc ça veut dire tiens, c'est encore un truc de plus qu'on nous met.
Oui, ça serait une décision impopulaire, ça c'est clair,
qu'on nous impose.
Mais c'est vrai qu'on se moquait de la décision de la Chine il y a quelques années de limiter le temps d'écran, etc. Finalement on se rend compte qu'évidemment c'est une décision autoritaire et sans appel. Mais on peut comprendre, enfin, je pense qu'ils avaient compris l'impact que ça avait sur la jeunesse chinoise.
Ça répondait à une épidémie là-bas, qui était le jeu en ligne multijoueur, massivement multijoueur, avec des enfants qui jouaient toute la nuit.
Qui paralysaient en fait toute l'enfance. Ouais. C'est fou. Mais ce qui est intéressant, je sais pas si c'est pas toi qui m'avais raconté cette histoire. Tous les chercheurs, les développeurs qui sont dans la Silicon Valley, qui ont des enfants, ne leur donnent pas accès aux outils numériques.
Steve Jobs refusait que ses enfants...
Alors, il y a Steve, mais aujourd'hui...
Ou alors, ils leur donnent accès, mais de façon très contrôlée.
Mais bien sûr.
Ils sont vraiment...
C'est pour dire qu'ils sont même en avance sur ce... Ils sont, un, conscients des dangers de ce qu'ils fabriquent, et deux, ils sont en avance par rapport à nous qui sont peut-être un peu plus
coulants. Mais je trouve que là encore, on culpabilise l'utilisateur et on va rien faire pour auprès des constructeurs, pour tout le monde à mort. Alors, c'est compliqué aussi, mais ce serait peut-être aussi là où il faudrait un peu revoir le modèle.
Aujourd'hui, le contrôle parental, encore une fois, en tant que parent de jeunes adolescents, je le vis tous les jours, il est extrêmement bien fait. Aujourd'hui, je peux décider que mon fils, il a que 30 minutes d'instruction Instagram par jour, ouais, basta. Bah moi, par contre, il a accès non-stop à sa messagerie pour pouvoir travailler.
Sur ton smartphone, tu paramètres tout ça. Ouais.
Bien sûr, moi j'ai paramétré sur les smartphones de mon fils en l'occurrence. Il y a que lui qui en a un. Ma fille n'en a pas à 12 ans, elle n'en a pas encore. Mon fils en a un à 15 ans.
Ça commence à tirer un peu, non ?
J'ai un peu.
La maison.
J'ai paramétré tout ça et du coup, il sait qu'il a tant d'heures de temps d'écran ou tant de minutes de temps d'écran par jour. Seulement certaines applis. École Direct, c'est illimité. Par contre, voilà. Bah, honnêtement, c'est un peu compliqué. Il faut s'y pencher. Mais enfin, ça existe ces outils-là. On peut expliquer
après,
aux gens comment ça marche.
Le meilleur contrôle de temps d'écran, c'est de prendre l'appareil. Parce que ce qui est vrai, c'est que sur YouTube, ils ont tous les infos pour savoir comment enlever les contrôles parentaux et comment essayer de détourner le sujet. Donc, il y a un moment donné, il faut juste enlever l'appareil, enlever l'écran. Mais là où c'est bien sur ce rapport, c'est une volonté d'essayer de responsabiliser les parents. Ouais. Le sujet ouais. qui est effrayant, c'est il y a des gens comme nous qui ont conscience de ça. Oui, mais quand vous vous retrouvez en collectivité, en vacances, avec plusieurs personnes, avec d'autres enfants au collège. Moi, à 8 ans, il y avait un copain de mon fils qui avait un iPhone dans son école. C'était pourtant interdit d'amener un téléphone, interdit d'avoir un iPhone, et etc. Et le gamin, il était à cour de récré en train de regarder YouPorn. Donc, c'est effrayant. C'était une situation...
Et puis, il devait frimer auprès de ses copains.
Exactement. Donc, voilà. le problème est qu'aujourd'hui, c'est purement et simplement de supprimer l'appareil, ce qui sera plus simple.
Oui, on termine là-dessus. Et puis, c'est vrai que longtemps, on l'a dit, oui, faut mettre... Si vos enfants sont devant des écrans, c'est pas si grave que ça, faut faire attention. Puis, ça va les mettre en lien avec cette éducation au numérique. Mmh. Mais il y a la différence entre faire des jeux vidéo et faire du codage. Enfin, et souvent, on mettait un peu ça, dire, ah, mon fils, il est super bon sur les écrans, vous verriez, oui, non, il était sur... Enfin,
mais surtout que la réalité, c'est qu'il regarde Vidéogag, en réalité.
Bah voilà,
il passe son temps à regarder.
Et puis, excusez-moi, scroller sur TikTok, il ne faut pas faire preuve d'une immense intelligence.
Pendant longtemps, on va dire.
Je peux juste balancer un tout petit peu ce propos-là. Il y a aujourd'hui beaucoup d'applis, en particulier pour les 6-10 ans sur tablette, qui sont des applis éducatives formidables.
Ah oui, bien sûr.
Et qui permettent de s'adapter, par exemple, au niveau des enfants. Des enfants qui ont des difficultés de lecture, par exemple, en CP, aujourd'hui, grâce à des applis qui reposent sur de l'IA, vont pouvoir s'entraîner avec une appli qui est très adaptée pour eux. Et ça, c'est évidemment pédagogiquement très intéressant. Donc,
non, mais même du oligo pour les enfants.
Ça marche super bien.
C'est clair. On enchaîne avec un autre sujet. Cette fois-ci, nous allons du côté de Cupertino et du côté d'Apple. Avec cette longue enquête qui a été publiée par Bloomberg, une enquête qui fait tache d'encre, parce qu'elle est quand même assez forte. Et elle explique, en fait, comment sont recyclés ou détruit les iPhones.
Une certaine partie,
bien sûr. Vous savez qu'un iPhone, bon, a 2, 3, 4, 5, 6 ans de durée de vie. Et puis, la plupart du temps, il part en reconditionné. C'est-à-dire qu'il est, on va le remettre un petit peu au goût du jour. On va changer la batterie, regarder si tous les composants fonctionnent. Et puis, il repart pour une seconde vie. Ça, c'est, on va dire, le scénario normal. Mais il faut savoir qu'il y a plein d'iPhones qui, au lieu de partir en recyclage ou en reconditionné, partent à la casse, en fait. C'est-à-dire qu'ils partent dans des containers et il y a des usines qui débroient, en fait, ces téléphones. Et Bloomberg a mis, en fait, en lumière le fait que des milliers de téléphones qui pourtant pourraient partir en reconditionné ou en seconde main sont broyés, en fait, par ordre d'Apple. Et d'ailleurs, il y a eu une histoire incroyable, c'est que les employés de ces sociétés qui sont là, qui ne font que broyer des téléphones, recevaient des palettes entières de téléphones qui étaient fonctionnelles et les volaient, en fait, pour éviter qu'ils soient broyés, pour après les revendre, en fait. Et Apple a crié au scandale, etc. Donc, tout ça, ça va un peu à l'encontre de l'image que Apple essaie de se donner. Enfin, je sais pas, à chaque fois qu'on a une conférence d'Apple, on a au moins un quart d'heure sur la sustainability, le RSE, l'environnement, l'équilibre carbone d'ici...
Le bilan carbone,
neutralité carbone d'ici quelques années.
Et ils font des choses qui sont très en avance sur le reste de l'industrie. Il faut pas...
Mais là, ils se font avoir la main dans le pot de confiture, quoi.
Oui, alors moi je pense vraiment qu'il y a plusieurs choses derrière toute cette histoire. D'abord, il y a le fait que effectivement Apple ne maîtrise probablement pas aussi bien cette chaîne que d'autres, parce que c'est pas eux en fait qui recyclent les téléphones, ils le donnent à des prestataires qui le font pour eux. Mais les prestataires ne font que évidemment suivre les instructions d'Apple, donc je ne les dédouane absolument pas. Simplement, ils donnent effectivement ces téléphones et il est probable, je parle au conditionnel puisque toute cette information-là n'est pas totalement vérifiée, mais qu'ils leur donnent des instructions pour que s'il y a le moindre défaut sur le téléphone, il faut le détruire. Pourquoi ? Parce que ça abîme l'image de marque d'Apple de remettre sur le marché des téléphones moins fonctionnels ou dont les mises à jour d'OS les rendent trop lents, ou etc. Alors qu'effectivement, ils pourraient être complètement utilisés.
Puis le moindre défaut, c'est un peu flou, tu vois.
Et c'est sûrement
c'est une grosse rayure sur l'arrière du téléphone. C'est pas pour autant que il peut vivre encore quelques années, ce téléphone-là.
Et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant, cette polémique, ou en tout cas cette info qui est sortie, parce que je pense que ça met Apple face à ses responsabilités. Et qu'effectivement, il y a l'écologie qu'on maîtrise. Je mets de l'aluminium recyclé dans mes produits, je m'assure que toute l'énergie utilisée est bas carbone, tout ce que Apple raconte à longueur de conférence, ça, ils le maîtrisent. Par contre, ça va aussi les forcer à repenser l'économie circulaire. Et ça, c'est quelque chose qui, pour une marque premium, presque de luxe, hein, comme les Apple, est quelque chose qui n'a pas aujourd'hui été théorisé. Effectivement, d'ailleurs, je ne sais pas si vous utilisez les produits Apple, parfois, ils sortent des produits, ça a été le cas avec leur case pour leur dernier téléphone, hein, avec un nouveau matériau censé être écologique. Je ne sais pas si vous avez vu la polémique dessus, mais globalement, au bout de 3 mois, ça ressemble à une serpillière. Et donc, en fait, ils vendent 60€ un produit qui est inutilisable au bout de 3 mois, ce qui n'est pas très bon non plus pour la sustainability. Donc, je pense qu'ils sont ils n'ont pas encore fait ce pas-là, et qu'il va falloir probablement qu'ils le fassent. Ce genre de polémique va probablement les pousser à le faire, mais il ne faut quand même pas discounter que parmi tous les grands de la technologie et des gens qui fabriquent du hardware, c'est Apple qui aujourd'hui est le plus avancé dans son programme de sustainability.
Ils avaient même créé des robots, hein, spéciaux.
Ils ont créé des robots, effectivement,
Daisy, etc. Daisy,
des assemblées, des téléphones, mais qui sont largement... Il y en a très très peu, en fait, en fonction.
Mais voilà,
ça ne suffit pas du tout.
On a l'impression que c'est plus un coup de com' qui fait plaisir aux journalistes qui font de beaux reportages que véritablement une vraie alternative.
Mais comme toujours chez Apple, il y a une opposition entre un message porteur de valeur, porteur de sens et une réalité. Ça a été vrai sur la data où aujourd'hui on sait que les téléphones nous écoutent et sont reconnectés à la publicité pour nous faire de la publicité géolocalisée. Soi-disant, c'était pas vrai, ils se sont fait attraper la main dans le pot de confiture. C'est vrai aujourd'hui sur le recyclage, etc. Ce qui est surtout triste, c'est qu'il y a des enjeux d'inclusion digitale numérique dans le monde entier et qu'aujourd'hui, Apple pourrait, de par sa puissance et son image de marque, travailler sur ça et essayer de faire en sorte que ça soit recyclé pour des gens qui sont incapables de s'acheter un téléphone, quoi qu'il en ait. Et le deuxième problème, c'est que ce qui est quand même profondément dommage, c'est qu'aujourd'hui, rien n'est démontré sur exactement le suivi du process par Apple et la capacité d'Apple de connaître réellement l'état de leur téléphone quand ils sont jetés. Maintenant, quand on fait une comparaison, tu parlais d'image de marque de luxe, c'est une marque de luxe. Le monde du luxe dans le monde des vêtements, dans le monde fait la même chose. Il y a des vêtements qui sont jetés, brûlés, plutôt que revendus, remis sur du secondaire, parce que pour l'image de marque, c'est plus important de créer de la rareté, créer de l'envie, que de balancer des millions de pièces partout qui vont être achetées en occasion, qui vont être mis à droite et à gauche, etc.
Bon, après, il y a Vinted, il y a plein de sites comme ça qui sont là justement
pour... Oui, mais Vinted, c'est des gens qui l'ont acheté.
Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai.
Moi, je parle de gens, de stock de marque de luxe.
Des stockages, quoi, en quelque sorte.
Ne pas remettre sur le marché et déstocker un produit.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette enquête, Bloomberg a interviewé un ingénieur qui a travaillé dans ces usines de recyclage et qui dit ceci. Apple ne peut pas vendre un tout nouveau téléphone à 1 000 $ s'il y a encore sur le marché des téléphones vieux de 2 ans. Plus ils se débarrassent de téléphones, plus ils peuvent en vendre. C'est autre chose, là.
Oui.
Là, ça serait presque sciemment qu'Apple détruirait des téléphones pour un petit peu donner d'oxygène aux ventes potentielles de nouveaux modèles.
Ça, pour le coup, je ne crois pas une seule seconde. Mais...
Moi, je pense que c'est plus un...
Alors, moi non plus, j'y crois pas, mais je voulais vous lire cette phrase parce que c'est un autre argument.
Il y a un peu un ressenti contre Apple et qui les accuse de tout ça. Moi, je trouve que là ce qui est dérangeant, c'est effectivement, il y a tout le Apple qui dit tout ça, mais c'est que quand tu dis qu'Apple est l'un des premiers à travailler à stimuler un peu cette économie circulaire, si on apprend que lui, sur une grande partie, ne le fait pas. Enfin, il y a un côté engageant, quoi, entraînant. Il y a ça. Je pense qu'il va y avoir un souci aussi. Là, c'est la suite. Alors, il faut voir, est-ce que c'est des matériaux qui viennent de chez des brokers, qui viennent directement de chez Apple? Est-ce qu'Apple était vraiment au courant? Un petit peu quand même. Mais dans les entreprises aujourd'hui, dans les cahiers des charges, dès qu'on achète un PC, dès qu'on achète un matériel, enfin, même une prestation de service, on demande tout un lot, là, de tout l'amont. On veut en savoir plus et comment ça va être recyclé derrière. Donc, ça peut être passé à côté d'opportunités d'achat. Donc je pense qu'ils vont, ils vont réagir assez vite par rapport à ça.
Et ils sont probablement en communication de crise sur ce sujet.
Oui, bien sûr.
Apple, c'est... la réputation chez Apple, c'est un sujet.
C'est étonnant qu'ils n'aient pas réagi d'ailleurs.
Ils mettent toujours du temps à réagir.
Peut-être qu'on risque d'avoir un communiqué de presse.
Il y a les conformités réglementaires aussi. Enfin, tu dois avoir des choses. S'ils répondent pas, ils peuvent se prendre des amendes aussi, j'imagine.
Alors juste pour terminer ce sujet, pour conclure ce sujet, Bloomberg dit très clairement qu'il n'y a pas qu'Apple qui détruit comme ça des objets. Il y a Bose, enfin il y en a d'autres.
Je crois qu'il n'y a pas que des
écrans plats, il y a même des sextoys qu'on détruit comme ça.
Et même chez Apple, il n'y a pas que des smartphones. Il paraît qu'il y aurait des Mac aussi.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il nous reste 1 minute 40. Autre petite actu Apple qu'on va commenter brièvement, c'est le fait que Apple est en train de préparer sa stratégie IA en embauchant à tour de bras quand même d'anciens ingénieurs de chez Google pour préparer l'IA de demain chez Apple. Et il y aurait même un laboratoire secret à Zurich.
Oui.
Qui veut commenter ça?
Sur l'IA, ils sont très actifs. Ils viennent de racheter en France une très belle boîte qui s'appelle Datacalab.
Oui.
Et qui est un capacité de développement assez fort sur des sujets de compression et d'optimisation de l'IA. On a d'ailleurs énormément de super boîtes en France. Une autre qui s'appelle Pruna qui fait ça et qui est une des super boîtes françaises de l'IA. Le sujet, c'est ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en retard, ou en tout cas, ils communiquent de façon tardive sur le sujet, et qu'il y a un enjeu pour Apple d'essayer de rattraper ne serait-ce qu'en communication, le train de Apple présent sur l'IA, fort dans l'IA, investissant dans l'IA, parce que comme toujours c'est une boîte qui est très secrète avec une approche de communication très faible sur réellement ce qu'ils font. Et là aujourd'hui on voit bien que en termes de valorisation boursière, en termes de communication sur le titre, il est important que Apple puisse réellement dire un peu ce qui va se passer et ce qu'ils font, parce qu'on ne les entend peu par rapport à des Google, par rapport à
c'est ça qui est bizarre, parce que c'est quand même, on estime, je regardais un rapport là d'un cabinet de recrutement, d'un cabinet d'analyse qui dit qu'en gros Apple aurait racheté depuis 2017 21 startups dans le domaine. Là où Microsoft, la moitié, 12,
Alphabet, le patron de l'IA d'Apple, il vient de Google il y a 5 ans. Enfin, je veux dire,
oui, mais justement, on le voit jamais.
Depuis des années.
Mais on le voit jamais.
Mais c'est normal, c'est le modèle Apple. Ils ont toujours fonctionné comme ça.
Mais tu vois, il ne sort pas dans les conférences, on ne parle pas de lui. On sait que chez Apple, en plus, moi, ce que j'ai entendu chez Apple aussi, c'est que justement, il y a un problème de leadership. Alors sans doute c'était John Andrea, c'est un super chercheur, mais à mon avis il y avait une bataille entre le deep learning,
Il y a un truc qu'il faut vraiment voir, c'est que sur Apple, je pense, n'est pas du tout en retard sur l'IA, très clairement, ça, j'en suis absolument persuadé.
Peut-être générative.
Quand on voit toutes les publications qu'ils ont fait sur le génératif depuis 2 ans.
Oui, mais aujourd'hui, il y a un usage.
Non, mais là, je parle sur ce qui se passe dans leur labo de recherche.
Ah oui, etc.
C'est des données publiques, ils publient, donc on les voit, etc.
Mais sur l'IA, pas sur les génératifs.
Sur l'IA générative y compris. Moi, je pense vraiment qu'ils ne sont pas du tout en retard. Pourquoi ils ont attendu avant d'externaliser comme ils l'ont fait sur toute leur technologie, toute leur vie? C'est parce que leur modèle était de dire, moi, je veux du on-device. C'est-à-dire que je veux pouvoir faire de l'IA générative sur le téléphone.
Sans être connecté au réseau.
Sans être connecté au réseau. Et ça veut dire quoi? Pour des questions de privacy, etc., qui font partie de leur discours marketing. Et donc ça veut dire qu'il faut du hardware qui soit prêt, qui soit assez puissant, des modèles LLM qui sont petits, légers, qui peuvent fonctionner sur des petits devices. Et je pense qu'il leur a fallu plus de temps que, en gros, s'ils avaient voulu prendre une API OpenAI et la mettre dans l'iPhone, ils l'auraient déjà fait il y a un an. Enfin, je veux dire, c'est pas des problèmes d'argent pour Apple. Donc moi, je pense vraiment qu'ils ont cherché un modèle d'IA on-device qu'ils ont probablement développé. Là, ils sont effectivement en communication très en retard, mais pour moi, c'est le modèle Apple.
En 2023, c'était l'année des gros développements IA, des gros investissements LLM. Ce qui est sûr, c'est que là, on rentre sur l'applicatif et le plus petit. Et c'est là où, sans doute, Apple va rattraper son retard en termes de communication, parce que l'objectif maintenant de l'IA, c'est de le rendre exploitable et utilisable par tout le monde dans son téléphone, dans son quotidien, et d'où l'importance de l'optimisation, de la numérisation de cette IA et d'un rachat comme Datacalab qui est parmi les 20, mais qui est vraiment importante pour eux.